Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. RFI, grand reportage.
Alexis Guilleux.
Bonjour à tous. Le coffre-fort de l'Apocalypse, une arche de Noé des graines. On a tout entendu au sujet de la réserve mondiale des semences, un entrepôt où sont stockées près d'un million de variétés de végétaux sur l'archipel norvégien du Svalbard, dans le cercle arctique. Le but, c'est de les préserver pour pouvoir les semer à nouveau en cas de besoin. Ce projet sans équivalent sur Terre a fêté ses 10 ans la semaine dernière et, chose rare, il a ouvert ses portes pour accueillir de nouveaux échantillons. Nous partons donc dans le Grand Nord aujourd'hui. Les graines du froid, visite dans le grenier du monde, grand reportage signé Simon Rosé.
C'est dur de vous parler en même temps que je fais ça. Cette machine regarde les mêmes choses que quand on scanne vos bagages à l'aéroport. C'est pour s'assurer qu'il n'y a rien d'autre que des graines dans les boîtes avant de les amener dans le coffre.
Osmund Tasdal porte un petit gilet sans manches, rien qui ne laisse présager du froid polaire qui règne en dehors de l'aéroport de Longyearbyen. Ici, dans la ville la plus au nord du monde, des caisses par dizaines remplies de graines arrivent sur le tapis roulant. Osmund et son collègue Roland von Bottmer se préparent à les charger dans un camion, mais il faut d'abord les contrôler.
Le but, c'est de voir s'il n'y a pas d'objets étrangers. Il ne doit y avoir que des graines dans les boîtes. C'est très important parce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir ces boîtes. Donc, avec le scanner, on peut voir s'il n'y a pas d'autres objets à l'intérieur. Aujourd'hui, on attend 179 boîtes de 23 organisations. Celle-ci vient d'Australie, la banque de gènes d'Australie. Il y en a d'autres qui vont arriver plus tard. Et chaque boîte que vous voyez doit contenir au moins 500 graines. Ça doit être suffisant pour garder intacte leur information génétique. Osmund, qu'est-ce qu'on attend de plus dans l'arrivage d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous excite le plus ?
Je pense que ce sont les journalistes qui sont aussi fascinés par ce qu'on fait.
Allez, c'est normal, c'est le 10e anniversaire du coffre.
Stop. 179 caisses plus tard, il faut quitter l'aéroport. Dehors, le vent polaire souffle fort. Très fort. La température ressentie frise avec les moins 20 degrés. Normal, nous sommes dans le cercle arctique, sur l'archipel norvégien du Svalbard. C'est ce lieu reculé, recouvert de blanc, qui a été choisi pour construire un coffre-fort unique au monde. Ce coffre, la réserve mondiale des graines, c'est la destination de toutes les boîtes de l'aéroport. Elles viennent de faire les quelques kilomètres qui séparent les deux lieux en camion. Ici, nous sommes à flanc de montagne, en altitude. La vue sur le fjord est imprenable, mais le vent est encore plus terrible. Et en plus, nous sommes coincés dehors.
Now we are just waiting for the key.
Là, on attend juste la clé. Elle devrait arriver dans une minute. C'est Statsbygg, une entreprise publique qui s'est occupée de la construction du coffre. Ils s'occupent d'ailleurs de tous les bâtiments publics ici au Svalbard. Ils ont la clé et ils seront là d'ici une minute.
They have the key and they will be here in a minute.
Et enfin, ils arrivent. Une fois à l'intérieur, on se sent mieux. Il ne fait plus que moins 3 degrés dans le long couloir de 140 mètres creusé directement dans la montagne. Les semences sont déchargées à l'intérieur. Marie Haga, la patronne de Crop Trust, l'organisme en charge du coffre, surveille le tout.
Vous savez, le coffre est construit sur l'idée de la confiance. Quand des gens, des pays, des institutions déposent leurs graines ici, ils doivent savoir que leurs graines vont être gardées avec soin et qu'elles ne tomberont pas entre de mauvaises mains. Et je pense qu'après ces 10 ans, nous avons vraiment construit cette confiance. C'est assez important quand on le réalise. Nous avons environ 1 million de variétés de graines dans le coffre.
That we have roughly 1 million varieties of seeds in the world. So now, a little bit careful down the hallway so you don't slip.
Alors là, faites un peu attention en marchant, il ne faut pas glisser. On entre dans la montagne. Le tunnel commence en dehors de la montagne et là, nous entrons véritablement dedans.
And we will come to a new door.
Et voici une nouvelle porte. Combien de portes ? Une, deux, trois, quatre, cinq portes. Non, six en fait. Six portes avant d'arriver jusqu'aux graines.
So as we go into the mountains, you will see it gradually gets colder.
Plus on s'enfonce dans la montagne, plus il fait froid. Derrière la porte suivante, il commence à geler. Sur les murs, vous pouvez voir des cristaux de glace. Nous arrivons dans ce que j'aime appeler la cathédrale, ce grand hall blanc.
And this is where I, every time I come in here, I really feel very humble.
À chaque fois que je viens ici, je me sens très humble. Parce que derrière cette porte, au milieu, qui est complètement couverte de glace, vous trouverez une des ressources naturelles les plus importantes de la Terre, la diversité des semences. Le résultat du travail des fermiers depuis 10 000, 12 000 ans, 1 million de variétés, chacune d'entre elles avec sa propre histoire. Et elles ne constituent pas seulement le passé de l'agriculture, mais aussi son futur et celui de notre nourriture.
And it is, of course, not only the history of agriculture, it's potentially also the future of agriculture and the future of our food.
Cette porte, elle ne paie vraiment pas de mine. Elle n'est pas très grande, elle n'a pas l'air très lourde. Elle est juste très belle, couverte de glace. Et c'est le moment de la franchir. Derrière elle, nous sommes dans la chambre forte à proprement parler. Roland Van Bottmer nous accompagne.
Here. In the vault, in the inner part of the vault, we have minus 18, which is optimal for the seeds, and we keep that constant as much as we can.
Ici, dans ce coffre, il fait moins 18 degrés. C'est la température optimale pour les graines, et on essaie de la maintenir constante. Et comme vous pouvez le voir, nous gardons toutes les boîtes sur des étagères. Celles qui se trouvent au premier rang, ce sont celles qui viennent d'arriver de l'aéroport. Elles viennent d'être scannées. Il y en a de l'Icarda, on aura l'occasion d'en reparler. Il y en a deux d'Australie, Agriculture Canada. Les boîtes rouges, ce sont celles de l'International Rice Research Institute des Philippines. Il y a d'autres organisations internationales, le Portugal. Toutes ces boîtes bleues viennent du département américain de l'agriculture. Et les vertes viennent d'Allemagne. Il n'y a que nous qui pouvons toucher les boîtes, mais nous n'avons pas le droit de les ouvrir. Il n'y a que leurs propriétaires, ceux qui les déposent, qui le peuvent.
We guarantee that no one gets into the box. Okay?
Moment. I'm so close.
Quelques minutes seulement. C'est le temps qu'aura duré la visite. Il ne faudrait pas perturber toutes ces graines dans leur repos glacé. Sourire ferme aux lèvres, Roland Van Bottmer nous accompagne vers la sortie et Marie-Aga termine le chemin avec nous.
This material is important. If we lose it, we lose it forever.
La variété des semences est très importante. Si nous la perdons, nous la perdons pour toujours. Nous devons donc avoir une sauvegarde pour conserver ces options. Car malheureusement, parfois les choses se passent mal sur la planète. On a perdu des bibliothèques entières de graines en Irak, en Afghanistan. La Banque nationale de Gênes aux Philippines a été frappée par un tsunami et par un incendie. Et des semences de grande valeur ont été perdues. Nous avons donc besoin d'une sauvegarde pour s'assurer que l'on ne perde plus rien. C'est pour cette raison que le coffre de Svalbard est une merveilleuse invention, si on peut dire. C'est en fait la deuxième couche de sauvegarde. Nous demandons d'abord à toutes les banques de Gênes d'avoir une copie de toutes leurs graines sur un autre continent. Ce n'est qu'ensuite qu'il y a le deuxième niveau de sécurité, ici, à Svalbard.
Seeds in their own gene bank, then to back up first on a different continent, and then have the extra safety duplication here in Svalbard.
Svalbard, c'est un ouvrage unique. On l'a entendu, plus d'un million de variétés de graines, du riz, du blé, de l'orge, du sorgho, des haricots, qui viennent de toute la planète. Un coffre pour protéger les collections glanées par ce qu'on appelle les banques de gènes, des institutions qu'on trouve dans le monde entier. Une sauvegarde si jamais toute cette diversité venait à se perdre. Et malheureusement, ce coffre a déjà eu une utilité, c'est l'histoire de graines conservées en Syrie.
Bonjour, ça va ? Ça vous va. Allez bien, ça fait bien de vous voir finalement. Hein. Il va y avoir un peu de vent et ça, quand il y a du vent, c'est difficile de rester très longtemps.
Ahmed Amri n'a clairement pas l'habitude du froid. Gros bonnet avec un ours polaire vissé sur le crâne, il a le bout de la moustache qui gèle. Et même s'il regarde le fjord avec les yeux qui brillent, il n'est pas venu dans le Grand Nord pour visiter. Ahmed Amri est en effet le chef de l'unité des ressources génétiques de l'ICARDA.
L'ICARDA, c'est un centre international qui travaille sur le développement agricole dans les zones non tropicales. Et principalement ce qu'on appelle l'Afrique du Nord, l'Asie de l'Ouest et l'Asie centrale en particulier, mais au-delà bien sûr d'autres régions. Et pour vous dire que ces régions-là, elles englobent premièrement le centre essentiel de diversité et de domestication des blés, des jorges, des lentilles, des fèves, des pois chiches, de plusieurs espèces fourragères. Donc, il a une importance globale, une importance internationale énorme.
L'ICARDA, c'est une banque de gènes, banque dans le sens de bibliothèque, un organisme chargé de collecter et inventorier la diversité végétale en stockant des graines, donc. 155 000 échantillons de 1300 espèces provenant de 109 pays, c'est la collection de l'ICARDA. Une collection qui, sans le coffre de Svalbard, serait aujourd'hui inutilisable. Elle se trouve en effet à Alep, en Syrie.
Depuis septembre 2016, ne sont plus en mesure d'y accéder pour voir est-ce que les conditions de stockage de semences est adéquate ou non. Parce que, premièrement, il est risqué. Deuxièmement, c'est que les activités principales d'une banque de gènes, c'est pas seulement le stockage, c'est la caractérisation, c'est la régénération, c'est le suivi de la germination, de la viabilité des semences, c'est la distribution. Si on n'arrive pas à faire ces activités, ça veut dire que nous avons un problème. C'est pourquoi on a décidé dès 2014, fin 2014, de relocaliser toutes nos activités. Nous avons choisi le Maroc et le Liban pour reconstruire nos banques de gènes et pour entamer les activités au champ. Et c'est pourquoi, depuis 2008 à 2014, nous avons envoyé 80% de ce qui existe dans la banque de gènes de Syrie. Ils étaient ici à Svalbard.
Et ça s'est révélé utile, du coup ?
Ah, bien sûr, parce que quand on a expérimenté, quand on voulait maintenant, on voulait refaire les banques de gènes, on n'a qu'une chance. On va prendre les 80% qui sont à Svalbard et c'était facile. Hein.
Aujourd'hui, les graines d'Ahmed Amri repoussent au Liban et au Maroc. Et il est venu redéposer ses copies de sauvegarde à Svalbard. Elles ont bien servi. Mais pourquoi se donner tout ce mal ? Pourquoi rassembler des centaines de milliers de graines partout dans le monde, les copier, les recopier ? Pourquoi garder ces copies dans un bâtiment creusé dans une montagne, au frais, dans le cercle arctique ? Pour avoir la réponse, direction le chaud, c'est plus agréable à l'hôtel. Daniel Debouc est un élégant sexagénaire. Il a dirigé l'une des plus grandes banques de gènes, le CIAT, le Centre International d'Agriculture Tropicale, à Cali, en Colombie. Il puise dans ses souvenirs. C'est l'exemple d'un simple haricot mexicain qu'il choisit pour nous expliquer l'intérêt de garder cette diversité végétale.
Je me souviens, c'était une conversation avec un collègue entomologiste, donc un collègue qui étudie les insectes. Et il utilisait à ce moment-là toute la collection de matériel cultivé pour trouver une résistance aux bruches. Alors qu'est-ce que c'est que les bruches ? Ce sont des insectes qui détruisent les graines, les larves font des trous circulaires dans les graines et rendent le produit tout à fait impropre à la consommation. Alors vous pouvez contrôler ces insectes en utilisant des insecticides qui généralement sont relativement toxiques pour la santé humaine. Alors, je vous disais, il y a un petit groupe des parents sauvages du haricot qui se trouve dans l'ouest mexicain où vous avez la protéine de la graine qui est un peu différente. Et de fait qu'ils ont une protéine un peu différente, la larve de la bruche ne peut pas se développer. Alors en fait, les collègues ont travaillé et continuent de travailler pour transférer cette résistance à la variété cultivée pour pouvoir donc justement mettre un produit qui soit tout à fait propre à la consommation humaine, mais qui ne soit plus attaqué par ces insectes qui détruisent les graines quand ils sont en stockage.
Malheureusement, cette diversité se perd. Si l'on reste au Mexique et que l'on parle maïs cette fois, ce sont 80% des espèces qui ont disparu en 100 ans.
Pour la plupart de nos grandes plantes cultivées, le nombre de variétés en culture est un nombre passablement restreint. On a eu dans le passé beaucoup plus de variétés en culture. C'est un peu, si vous voulez, oui, une conséquence du système actuel dans lequel fonctionne l'agriculture, où vous avez donc un énorme phénomène de concentration sur quelques plantes cultivées et généralement sur peu de variétés donc, de ces plantes cultivées, pour avoir préféré un système que je crois être hautement productif, mais extrêmement vulnérable. Le problème ne va pas surgir tout de suite. Vous pouvez très bien continuer à avoir des cultures performantes avec un nombre restreint de variétés cultivées. Malheureusement, cette situation n'est généralement pas une situation garantie, en ce sens que vous pouvez avoir brusquement une nouvelle race d'un pathogène, ou vous pouvez avoir brusquement, de façon non prévue, un accident climatique qui fait que les quelques variétés sous culture peuvent avoir jusqu'à 90% de pertes. Et donc, par conséquent, la banque de gènes fait face un petit peu donc à ce phénomène d'extinction de variétés pour faire ce travail de conservation et de documentation pour le cas où on a besoin de ces sources de variabilité.
La lutte pour conserver la diversité végétale, elle a commencé à être menée durant les années 60, quand on a pris conscience que l'agriculture intensive uniformisait les semences. Les banques de gènes sont une des solutions imaginées et le coffre de Svalbard leur dernière extension. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette méthode et ce n'est pas dans le Grand Nord que l'on trouvera Pierre-Henri Gouillon. C'est à Paris que ce professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste en biodiversité végétale, nous reçoit, dans son bureau de la Fondation pour la Nature et l'Homme, dont il est membre du conseil scientifique. Svalbard et les banques de gènes, très peu pour lui.
Quand on met des graines dans des frigos pour conserver la biodiversité, je pense que c'est une erreur à long terme en tout cas. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est un phénomène dynamique. C'est depuis Darwin, on sait que les formes vivantes évoluent et que bloquer cette évolution, c'est en gros les condamner à mort à moyen terme. Donc, en 10 000 ans du néolithique au XXe siècle, on a produit de la diversité dans les cultures. Au XXe siècle, on a mis en place cette agriculture un peu folle qui homogénise totalement les cultures et dans lesquelles, au lieu que les agriculteurs participent à la production des semences de la génération d'après, ils ne font plus qu'acheter leurs semences chez des semenciers. Les semenciers, eux, leur but, c'est de mettre la même variété sur des très grandes surfaces. Et le résultat, c'est que la biodiversité des plantes cultivées s'effondre. Promenez-vous dans la campagne espagnole ou française, ou sud-américaine, ce qui est encore pire d'ailleurs, et vous allez voir d'immenses champs de soja en Amérique du Sud, de blé, etc., qui sont des plantes qui sont génétiquement mortes. Même s'il apparaissait une plante géniale qui résiste à toutes les maladies là-dedans, personne ne le saurait jamais parce qu'on ne les regarde même pas. Et pour remettre en œuvre des processus qui produisent de la diversité, il faudrait absolument que les agriculteurs soient réinvestis d'une mission de sélection dans leurs champs. Donc évidemment que ces banques de graines de temps en temps pourront servir à quelque chose parce que en Syrie il y a eu la guerre et qu'il y a des variétés qui ont disparu et que du coup il y a des gens qui sont venus rechercher quelques graines, mais ce qui est présenté comme une espèce d'assurance à long terme, etc., je pense que c'est vraiment pas sérieux, c'est vraiment juste une manière de se donner le droit de détruire la diversité dans les champs en prétendant qu'on la garde au niveau statique, que ce soit à Svalbard ou dans les banques de graines en général.
Pierre-Henri Gouillon est très critique à l'encontre de la solution mise en place depuis les années 60, cette voie technologique en quelque sorte, où les graines sont conservées en lieu sûr en attendant d'aller piocher dans leur diversité quand le besoin se fera sentir. Mais pour adopter l'autre chemin et laisser la nature faire son œuvre, ce sont 70 ans d'agriculture intensive et tout ce qui va avec qu'il faudra changer. Les graines du froid, visite dans le grenier du monde, réalisation Pierre Chaffanjon, un reportage de Simon Rosé.